Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, je reçois Virgile Ringer, qui est à la tête de Figure ou Figures, si on l'a en anglais. Virgile, bonjour.
Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir.
Merci à toi surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment hot du moment, à savoir la transparence salariale. Mais avant tout, Virgile, je vais un petit peu expliquer qui tu es. Donc tu es un ancien directeur chez Criteo et également le fondateur de Figure, qui est une entreprise pionnière dans l'analyse des données de rémunération. Et donc ton cœur de métier, c'est d'offrir un large benchmark de grille salariale pour les startups et éventuellement aussi les scale-up. Est-ce que c'est correct, Virgile ?
C'est ça, et même de plus en plus, en fait, les plus grands groupes, on pourra en reparler, mais notamment, ça a un lien avec ce sujet de la transparence des salaires. Mais en fait, on est de plus en plus de grandes entreprises et de moins en moins de startups. Mais on en reviendra dessus.
Mais je ne suis pas étonnée parce qu'on nous le demande aussi de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées de savoir ce qui se fait ailleurs. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de l'origine de Figure, ce qui t'a inspiré pour créer cette entreprise ?
Bien sûr. Alors, donc moi, j'ai fait 11 ans dans les ressources humaines avant de passer du côté obscur et de créer Figure, ou Figures, donc. J'ai commencé ma carrière dans la rémunération. Donc moi, j'ai fait presque 2 ans dans la rémunération. Puis après, je suis allé faire 5 ans dans une entreprise en tant que chargé de chef de projet SIRH, puis HR business partner, en gros, équivalent. Mais j'ai commencé ma carrière dans la rémunération. Et après, j'ai continué, que ce soit en tant que HR business partner ou DRH, des fonctions tech, en effet, chez Criteo pendant 3 ans, où c'était à peu près 800 personnes entre la France et les États-Unis, principe que les équipes tech, donc produits, recherche et développement. Et après, j'ai fait 2 ans de DRH de start-up. Et en fait, dans toute cette carrière, j'ai eu un problème pendant toute cette carrière, c'est que moi, j'ai vu la transformation et la digitalisation des RH sur plein de domaines. Moi, j'ai commencé avec les entretiens annuels qu'on signait sur papier, qu'on scannait, etc. On a eu plein d'outils qui sont... Voilà. Et on a vu plein d'outils qui sont arrivés pour les managers. Maintenant, ça paraît incohérent quand on rencontre ça aux plus juniors qu'on faisait ça à l'époque. Ils nous regardent comme des dinosaures. Pareil sur le recrutement. Et en plus, tu connais bien. Moi, j'ai commencé avec les boîtes mail partagées, les dossiers Drive où on storait les CV, etc. Et maintenant, en fait, pareil, on a des outils tellement incroyables. Ça paraît que le Moyen-Âge de parler de boîtes mail et de Drive partagé.
Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais depuis, on a fait un bond d'une génération ou deux au niveau technique. Et pourtant, quand on va voir les boîtes, qu'on voit la manière dont ils gèrent la rémunération, en fait, ils collectaient des données de marché une fois par an avec des fichiers Excel et ils faisaient des fichiers Excel il y a 15 ans, il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est pareil. En fait, ça n'a pas changé. Et donc, moi, dans toute ma carrière, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a de l'innovation partout ? Et je suis obligé de faire chez Criteo mes revues de salaire avec, on avait, je crois, à peu près 700 fichiers Excel, un par manager qu'on envoyait par email avec un mot de passe. On disait, saisissez vos augmentations, redonnez-le-nous, on reconsolidait ce fichier Excel. On était une boîte tech, honnêtement, en pleine croissance avec plein de budget, mais il n'y avait pas d'outils. Et donc ça, la première chose qui m'a fait créer Figure, c'est ça, c'est ce côté manque d'outils. Et après, quand j'étais en startup, le deuxième, vraiment ce qui a été déclencheur, la deuxième raison pour laquelle j'ai créé Figure, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune donnée de marché sur le monde des startups. Et donc, c'était impossible de faire une politique salariale sans savoir quelles étaient les données de marché. Moi, je ne pouvais pas dire à mes employés, si je vous paye équitablement quand j'ai aucune idée du marché. Il y avait des acteurs historiques qui sont encore là pour les plus grands groupes, mais ils n'ont jamais pour les startups. Et donc, j'ai dit OK. Je vais modestement, et en fait, c'est ce deuxième sujet-là qui a été mon premier sujet. Je vais créer Figure, je vais faire un benchmark de marché pour les startups. Et donc, j'ai commencé en France, startup, puis un peu plus scale-up, puis ensuite, on s'est lancé en Allemagne, puis ensuite, on s'est lancé en Angleterre. Mais très rapidement, l'idée, c'était de me dire, je ne vais pas répliquer ça et refaire un benchmark en Excel. Alors, moi-même, qui me suis plaint toute ma vie du manque d'outils. Et donc, j'ai trouvé un cofondateur très vite qui en a fait un outil. En fait, Figures, au-delà des 50 premiers clients, c'est devenu un outil de benchmark, un outil d'agrégation des données de salaire où au lieu de les collecter avec des fichiers Excel, on se connecte à des outils RH de nos clients, on récupère leurs données, on l'anonymise, on l'agrège et on fournit un benchmark à toutes les entreprises clients. Et c'est ça, Figure, récemment.
Ah, c'est génial. Et ça te prend combien de temps pour réaliser un benchmark comme ça?
Là, pour arriver de manière générale à avoir créé Figure ou sur une avec un client ou un peu plus de
Avec un
clients?
client.
Bah, en fait, maintenant, ce qui est la beauté, c'est que c'est du temps réel entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est connecté au système RH du client, en fait, il y a beaucoup de travail à faire avec le client sur la normalisation des données. C'est-à-dire, OK, c'est quoi vos métiers? Qu'on les déchiffre, parce que pour les agréger, il faut qu'on ait un référentiel de métier, de niveau de seniorité commun. Donc là, il y a un peu de travail avec le client à dire, OK, vous avez des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, à quoi ça correspond votre niveau 2, est-ce que ça correspond à notre niveau intermédiaire, etc. Mais une fois qu'on a fait ce travail de masse, en fait, instantanément, on peut importer toutes les données d'un client, qu'il est 100 salariés ou là, on s'apprête à accueillir Suez, ils sont 30 000 salariés. Ben, en fait, à partir du moment où ils ont fait ce travail de correspondance, accueillir 100 clients comme 30 000, ça se fait, ben, c'est la tech, la beauté de la tech, dans une minute.
Magnifique,
Voilà.
magnifique. Et Figure a été créée quand?
Ah, il y a 3 ans, donc c'est octobre 2020, à peine plus de 3 ans.
Ok, super, bah, c'est impressionnant. Et surtout d'avoir des gros clients comme ça maintenant aujourd'hui. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, de plus en plus? Parce que, alors à la base, comme tu me disais au départ, c'était vraiment plutôt focus startup scale-up. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui s'y intéressent. À ton avis, quelle est la raison de cette évolution?
Mais en fait, parce que les RH et les responsables rémunération dans ces entreprises ont le même problème que moi j'ai eu historiquement. Ils en ont marre de bosser de la même manière qu'il y a 20 ans, à récupérer avec des prestataires de benchmark qui leur donnent une enquête annuelle à collecter en mars, qui leur prend des heures, des jours à remplir. Et ensuite, on leur dit, bon, bah, rendez-vous en octobre pour les résultats.
Les résultats.
Et c'est pas normal. Alors que, et donc, ils ont tous envie d'une meilleure manière de faire les choses. Et c'est pour ça que la proposition de valeur de Figure les a intéressés. Au début, c'était plus de la curiosité. Mais maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus de données de grands groupes, en fait, on a de plus en plus qui sont intéressés par se comparer leurs données avec ceux des autres acteurs.
Et pourquoi, selon toi, puisque voilà, tu es devenu expert voilà, dans ce créneau, pourquoi aujourd'hui c'est tellement important pour les entreprises d'offrir une rémunération plus juste?
Bah, tu, en fait, tu me tends la perche parce que on va arriver sur le sujet de la transparence salariale. Mais déjà, il y avait, au-delà du côté pure justesse et équité, honnêtement, il y avait une notion très capitaliste, historique. Le marché du travail, c'est un marché quand même. Donc, à un moment donné, je dois se dire, tiens, Stéphanie, si je veux pouvoir te convaincre de venir dans mon entreprise, tu as une valeur marché. Et je dois dire, qu'est-ce que c'est cette valeur marché? Est-ce que si tu me demandes 60 000 euros, c'est vraiment parce que tu négocies bien ou c'est parce que c'est la valeur marché? Donc, on veut l'information comme on a envie de savoir le cours de l'or ou du pétrole quand on veut l'acheter pour acheter au bon prix. Donc, ça, c'est un truc de voir les gens comme des ressources humaines et de te connaître leur valeur marché le plus précisément possible. Donc, ça, si je prends un truc très froid, il y a quand même des entreprises qui viennent en voulant connaître la valeur marché des gens par poste, par niveau de seniorité, par localisation. Côté très capitaliste de la chose. Mais maintenant, tu l'as dit, il y a un enjeu qui est de plus en plus pressant. C'est que les gens, la rémunération, ça a été historiquement une boîte noire, en fait. Et les gens ne savent pas s'ils sont bien payés par rapport au reste du marché, bien payés par rapport à leurs collègues. Surtout en France, on a une culture assez secrète autour de la rémunération. Ils savent pas si l'entreprise traite les gens équitablement, et notamment les hommes et les femmes. Sauf que ça devient de plus en plus un sujet de société, déjà, où les gens, en fait, ils ont de plus en plus à l'aise en parler, notamment les jeunes générations. Ils ont plus en plus envie de savoir. Il y a une enquête de Josh Berchtesgaden, un grand cabinet d'analyse américain, qui montrait que, en gros, l'impact au-delà d'un certain niveau de salaire, parce qu'évidemment, les plus bas salaires, ce serait prétentieux de dire que le montant n'importe pas, ben, une augmentation de salaire a moins d'impact que de s'assurer que les salariés perçoivent leur rémunération comme équitable. En gros, ça a 13 fois plus d'impact de se sentir payé équitablement que d'être augmenté sur le salaire de manière pure. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on va augmenter, mais qui ne sait pas s'il est payé équitablement, pas équitablement, qui a des doutes, est-ce qu'en fait, ouais, ok, on me donne 2 000 euros de plus par an, mais est-ce qu'en fait, c'est combien à côté ils ont? Est-ce que c'est moins que ce que je pourrais gagner à l'extérieur? Il y a un facteur de motivation qui est bien plus faible que de s'assurer qu'on est payé équitablement. Donc, ce sujet de est-ce que je suis payé équitablement? Ça devient de plus en plus un enjeu fort. Et avec le contexte à venir et de loi à venir notamment, ça va devenir un enjeu majeur pour les entreprises. Ils vont pas juste devoir se préoccuper de est-ce qu'on paye les gens à leur bonne valeur marché? Et comment est-ce qu'on démontre aux gens qu'en fait, on les paye de manière équitable? Et cet enjeu d'équité, il va devenir de plus en plus important.
Tu parles de contexte à venir et de loi. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer?
Ouais, c'est. Alors, c'est marrant parce que ce contexte de transparence salariale, déjà, le terme, on n'est pas trop revenu dessus, mais Il est un peu fourre-tout et ambigu parce que souvent les gens, quand ils entendent transparence salariale, ils entendent une transparence absolue des salaires. C'est-à-dire tout le monde sait qui gagne combien dans l'entreprise. C'est pas vraiment de ça dont on parle. Quand on parle de transparence des salaires, les lois sur la transparence des salaires, elles ont pour naissance récemment aux États-Unis,
Ah,
septembre et décembre dernier, les États de New York et de Californie qui font passer des lois qui obligent tous les employeurs à afficher des fourchettes de salaire sur les offres d'emploi. Donc ça, c'est en place depuis là-bas aux États-Unis. Ça change pas mal le marché. Et l'Europe, depuis le 30 mars de cette année, a voté une directive européenne, c'est-à-dire qui va pousser tous les États membres de l'Union européenne, dans les 3 prochaines années, à implémenter des lois qui obligent les employeurs de chacun des pays membres. Alors, même obligation sur les fourchettes de salaire à afficher sur les offres d'emploi. Mais celle-là, elle fait beaucoup parler, cette mention-là, mais il y a d'autres mentions dans la loi qui sont honnêtement, qui vont changer presque autant le monde de l'emploi. Deux, droits d'information du salarié, qui va avoir le droit de demander à son entreprise combien je suis payé comparé à mes pairs, et l'entreprise aura 2 mois pour répondre. Obligation de publier ses écarts de salaire homme-femme, et si supérieur à 5%, obligation de négocier avec le représentant du personnel de mise en place d'actions correctives. Un point qui est honnêtement, un point sur le recrutement qui est intéressant, interdiction de demander le salaire actuel de la personne, qui a pas mal
En
changé
entretien.
en entretien. Et le dernier point qui est honnêtement presque le plus inquiétant pour la plupart des entreprises, renversement de la charge de la preuve en cas de discrimination salariale. C'est-à-dire que maintenant, si je poursuis mon entreprise pour discrimination salariale, c'est à moi d'amener les preuves que j'ai été discriminé. Ce qui n'est pas simple. Surtout quand en fait, on ne sait pas ce que gagnent forcément les autres, etc. Et en fait,
Non.
demain, ce sera à l'entreprise de dire, de prouver qu'on n'a pas discriminé une personne. C'est-à-dire, c'est à l'entreprise d'arriver et de prouver que dans toutes les décisions de salaire passées, en fait, du salaire d'embauche jusqu'aux augmentations, etc., elle n'a pas discriminé la personne. Et donc, vous voyez, dans un contexte historique, il y a encore beaucoup de décisions de salaire d'embauche un peu discrétionnaires, un peu à négociation, et décisions d'augmentation un peu discrétionnaires avec un flou sur le pourquoi on a donné 4% à Jean et 2% à Pierre, etc., pas forcément bien documenté. Ce risque de charge de la preuve, il est énorme parce que ce que dit la loi, la directive, c'est que toutes les entreprises, quand elles seront condamnées, devront payer, rattraper tous les écarts de salaire injustifiés, plus des pénalités. Donc c'est un risque énorme pour les
Ouais, donc on
entreprises.
parle pas, ouais, effectivement. Et du coup, toi, tu penses quoi de cette loi?
Alors, moi, je suis biaisé parce qu'il y a un point qui est important, c'est que cette loi, elle est issue de la Commission européenne qui étudie l'inégalité salariale homme-femme. Donc c'est un point important à garder en tête, c'est que cette loi, elle n'est pas venue pour rajouter des contraintes aux entreprises ou pas la transparence pour la transparence. Elle vient pour, avec la croyance de fond qui est que plus de transparence dans le domaine des rémunérations va améliorer l'équité et va améliorer l'équité homme-femme. Mais pas que, mais à commencer par l'équité homme-femme. Et qu'est-ce que j'en pense? Nous, on a fait une étude l'an dernier sur une partie de nos clients. Donc, on a à peu près 780 de nos entreprises clientes. On en a 1200 qui ont répondu à notre enquête sur quel degré de transparence vous avez. En fait, on leur demandait, est-ce que vous êtes transparent? Et pas oui, non, parce qu'encore une fois, c'est un fourre-tout. Nous, on a défini les niveaux de transparence comme est-ce que vous êtes transparent sur votre politique de rémunération? C'est-à-dire, comment vous voulez vous positionner sur le marché? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous valorisez la performance, etc. Deuxième point, sur les process, c'est-à-dire comment vous déterminez le salaire à l'embauche? Est-ce que vous prenez en compte le diplôme? Comment sont vus les salaires annuellement? Troisième degré de transparence, on a dit, c'est transparence sur la grille. À quel point vous avez des degrés de transparence, c'est-à-dire que vous partagez à vos salariés, voire aux candidats déjà, quelles sont les fourchettes de salaire applicables par métier, par niveau de seniorité. Et le dernier, c'est la transparence absolue. Est-ce que tout le monde sait qui gagne combien dans votre entreprise? Ce qui est le cas chez nous, par ailleurs, chez Figure. Et donc ça, c'est les 4 degrés de transparence. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en gros, quand on corrèle ça avec les données qu'on a des clients, parce qu'on a toutes leurs données de salaire, et quand on mesure les écarts hommes-femmes à poste égal, ben en fait, on voit que on passe d'un écart moyen homme-femme d'environ un peu en dessous de 4% à poste égal, évidemment en faveur des hommes, et qu'à chaque degré de transparence, cet écart se réduit pour aller à un
Ouais.
écart de salaire homme-femme de nul en cas de transparence absolue. Donc ce qu'on montre, c'est plus il y a de transparence, moins il y a d'écart de salaire homme-femme, et donc on justifie un peu le contexte de la loi de vouloir améliorer l'équité avec la transparence.
Est-ce que tu penses que justement en amenant tous ces différents degrés de transparence, les entreprises, enfin, je vais d'abord te poser une autre question. D'après toi, allez, peut-être sur 10, combien d'entreprises ont déjà une politique assez transparente de rémunération?
Alors nous, quand on regarde les plus petites entreprises, ça peut être élevé, mais dans les plus grandes, c'est très peu. C'est très peu. J'étais à un événement hier soir, on demandait aux gens de lever la main sur ne serait-ce que combien d'entre eux ont une entreprise avec la grille de salaire transparente. Et je pense que c'était même pas 10% de l'entreprise, même pas 10% des gens présents, 5 à 10%.
Oui, c'est
Donc,
ça. Donc, mais il va quand
ouais.
même y avoir une nécessité d'accompagner toutes ces entreprises
Énorme.
dans les différents degrés de transparence. Il va y avoir des changements salariaux aussi, de rémunération au sein des entreprises.
Bien
À
sûr.
ton avis, toi qui as le nez dedans, justement, qu'est-ce que tu conseilles à ces entreprises? Enfin, par où ils doivent commencer, en fait?
Ouais, c'est une excellente question parce que passer le moment de panique de comment on va faire, c'est comment on se met en action. Et en fait, souvent, l'enjeu de la transparence et de la communication, ça commence pas en fait par la communication. Ça commence par se regarder un peu d'introspection et se dire est-ce qu'on est au clair sur ce qu'on a envie de faire et d'avoir en tant que politique salariale? Comment on a envie de payer? Comment on a envie de payer par rapport au marché? Est-ce qu'on a envie d'être payé un peu au-dessus, dedans, etc. C'est définir un peu les grandes règles de qui on a envie d'être. Et deux, c'est de dire, bon, bah, à quel point est-ce que la réalité correspond à cette règle? À quel point en interne, quand on fait cet audit un peu interne, on a de l'inégalité interne? À quel point on a des cadavres un peu dans le placard? C'est ça le sujet, parce que le sujet de la transparence, c'est à mettre en lumière les inégalités internes. Et si
Bien
en fait,
sûr,
quand on
ouais.
zoome dans son entreprise, et on se dit, ah ouais, en fait, les écarts de salaire homme-femme, là, oulala, puis en fait, j'ai des gens aussi qui sont payés 30% de moins que d'autres au même poste, parce qu'en fait, pas très bien négocié, là depuis un moment, et des gens qu'on a embauchés depuis, ça arrive bien au-dessus, enfin, des sujets que tu connais bien. En fait, il faut se regarder qui on a envie d'être, on s'audite en interne, on voit un peu les inégalités, on corrige ces inégalités, ou en tout cas, on a un plan sur 1, 2, 3 ans pour les corriger, et ensuite, on commence la communication et l'embarquement et l'accompagnement du changement. Et on ne commence pas en mettant des fourchettes de salaire sur les offres d'emploi, ça, en fait, c'est le tout dernier bout de la chaîne. On commence par, bah, sensibiliser l'équipe dirigeante à attention, ça arrive donc il vaut mieux s'y prendre maintenant. On forme les managers, on informe les salariés et ensuite on arrivera à mettre des fourchettes de salaire sur les offres d'emploi par exemple. Mais on va pas commencer à le faire sans avoir fait le travail en interne. On veut pas que des employés se mettent à découvrir demain sur un job posté par l'entreprise. Ah tiens, en fait,
C'est
le mec
marrant,
fait un job.
la tranche
Ouais,
salariale, elle est...
et c'est ce qui est passé aux États-Unis. Il y a eu un fil Twitter qui a complètement explosé avec des centaines et des centaines de likes et de réactions d'une salariée qui a dit, ah bah tiens, c'est marrant, je viens de voir que mon entreprise a posté les fourchettes de salaire pour mon rôle en externe, 20 à 40 000 dollars de plus que mon salaire. Et elle a documenté, bah tiens, je viens de postuler en externe via LinkedIn à mon propre poste. Et évidemment, ça a pris des proportions énormes. Des proportions énormes. Et l'entreprise a fini par annuler, enlever tous ses postes, faire des communiqués de presse. Enfin, et ça, c'est exactement, évidemment, des choses qui peuvent se passer parce que les entreprises ont dit, bon, bah, il y a une loi qui demande de mettre les fourchettes de salaire, on va mettre les fourchettes de salaire. Ils ont oublié toutes les étapes précédentes que je viens de décrire.
Ouais. Non, non, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que si tu commences par juste indiquer une fourchette salariale sur l'annonce, bah, oui, ça n'a aucune. Il faut vraiment d'abord commencer par un travail en interne, quoi.
Ouais.
Je vais pas te demander si tu es pour ou contre la transparence salariale. Je pense que je connais la réponse. Pour toi, quels sont les grands avantages pour les employés et les employeurs dans l'ensemble?
Alors, donc moi je suis pour, mais il y a quand même des. Je pense qu'il y a quelques effets de bord dont on pourra reparler qui m'inquiètent un peu dans la manière dont ça va être géré sur le marché. Néanmoins, les avantages, en fait, les avantages, honnêtement, pour les employeurs, il y en a très peu. Parce que pourquoi c'était une norme historiquement? Parce que le manque de transparence ne bénéficiait qu'aux entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle une asymétrie d'information. C'est-à-dire l'entreprise savait quels étaient les salaires du marché, quels étaient les salaires internes, qui gagnait combien. Les candidats et candidates ne savaient rien, les employés ne savaient rien. Ça ne sert que pour l'entreprise de dire, ben tiens, je vais recruter un candidat, j'ai une fourchette de salaire de 50 à 60 000 euros. Bon, le candidat me demande 48. La tentation, elle est forte de dire, bon, ok, 48. Et donc, ça ne sert qu'à moi que le candidat ne sache pas qu'en fait, j'avais une fourchette de 50 à 60 000. Alors, quand même, il y a un avantage pour les employeurs. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, maintenant que c'est inévitable, il y a plein d'entreprises qui se mettent en mouvement et qui commencent à s'y préparer à ce chantier-là. Et j'en parle beaucoup avec des entreprises qui sont déjà dans leur plan, leur priorité à 3 ans RH, dans leur propre priorité, il y a ce chemin vers la transparence des salaires. J'écoutais notamment Doctolib, qui est un de nos clients, dans un webinaire cette semaine, dire, nous, l'an prochain, c'est ce qu'on veut, c'est amener cette transparence à tous les employés. Donc, ils vont être précurseurs. Et donc, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que les premières entreprises à adopter cette transparence de manière proactive vont avoir un énorme gain de marque employeur, d'engagement, et d'attractivité auprès des candidats et des employés. Parce qu'en fait, ceux qui vont dire, ben, nous, on joue le jeu, on est les premiers à le faire, ils vont avoir un vrai gain, en fait, de d'être les premiers à dire, nous, on amène de la transparence, on est parmi les... Il va avoir un gain d'opportunité, une fenêtre d'opportunité. Si on est les premiers à le faire, on peut gagner en attractivité, en marque employeur et en engagement. Donc ça, c'est
Mais
le
tu
gain, je
m'apprends
pense.
quelque chose parce
Vas-y.
que nous, ça fait donc nous, on a créé Gentis en avril 2011 et tout le monde sait qui gagne combien. On est en full transparence,
Superbe.
mais on n'a jamais communiqué autour. Je ne l'ai jamais vu comme un avantage ou une valeur ajoutée en termes de marque employeur que la transparence salariale pourrait être un atout en plus. Donc tu m'apprends quelque chose.
Ah, c'est nous comme toi, alors bravo déjà, nous comme vous et comme toi, on a ce principe-là depuis le début. Et vraiment, on a des candidats qui viennent, qui disent, ah non, mais moi, qui par exemple réduisent leur salaire ou baissent les attentes en disant, moi, dans une boîte où c'est pas je rêve tous les jours d'être dans un salaire transparent, c'est plus la transparence comme vecteur de création de la confiance. Ou en fait, d'être dans
Bah
une
oui, c'est ça.
boîte, voilà, et en fait, ils me disent, moi, en fait, ça me préoccupe. Et on revient sur ce que je disais au début, d'être dans une boîte qui se préoccupe de l'équité. Et qu'il le fait via la transparence, bah en fait, c'est tellement rassurant pour moi, pour ma motivation, que je suis prêt à gagner moins dans une entreprise comme ça, parce qu'en fait, qu'aller gagner plus dans une entreprise où à tout moment, je me méfiais de, ouais, je gagne plus, mais est-ce que les autres sont gagnés encore bien plus que moi, etc. Donc en fait, ça, il y a un avantage au niveau engagement et attractivité, mais si on est les premiers à le faire, une fois que ce sera la norme du marché, les derniers arrivés, ils n'auront plus aucun avantage si tout le
Non,
monde le fait.
effectivement, effectivement. Et quelles sont les principales résistances que tu rencontres quand tu vois des entreprises qui disent ah non 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 mais moi non non pas de transparence, on est bien comme ça.
Ben, écoute, encore une fois, ils ont aucun, pour la majeure partie, ils voient que des désavantages parce qu'ils savent ce qu'ils ont en interne. Ils savent les inégalités potentielles, ils savent les cadavres dans le placard, et donc ils ont
Ouais.
aucun avantage à le faire. Il y en a certains qui sont, par opportunité de marque employeur, vont le faire, par conviction. Certaines entreprises disent, en fait, c'est le bon moment pour déclencher ça. Enfin, je rencontre des responsables RH ou des directeurs, directrices rémunération qui disent, bah, en fait, moi, j'y crois depuis un moment, je veux l'emmener. C'est l'opportunité de forcer mes dirigeants à le faire. Mais en fait, la plupart, ils disent, bah, moi, je ferai le moins possible parce que j'ai pas envie, c'est trop de contraintes, j'ai pas envie de le faire, etc. Et donc, c'est au niveau les freins, au niveau des entreprises, c'est ça. C'est, je vois pas. Et aussi, les effets de bord dont on peut parler sur. Et là, qui a un effet de bord légitime sur l'impact que ça va avoir sur la capacité des entreprises à faire de la récompense salariale pour la performance et les top performers.
Ouais.
En gros, il y a une vraie crainte qui est, et que je partage partiellement, je veux dire, c'est un peu inquiétude de se dire, plus il y a de transparence, en fait, plus on se doit justifier des décisions individuelles, même si ce n'est pas de la transparence individuelle, les boîtes vont avoir peur de dire, ah non, mais en fait, si tu donnes ça, comme maintenant les gens parlent de plus en plus, si moi je te donne vraiment ça, tu seras tellement au-dessus de la majeure partie des gens que tout le monde va venir me poser des questions, etc. Donc, en gros, à quel point les gens vont pas oser faire trop de différenciation, vont préférer faire du collectif, de l'harmonisation, et quitte à ce que les gens qui méritent potentiellement d'avoir plus, de plus être récompensé au niveau des salaires, en gros, soit rattrapé vers le bas, bah, en fait, tu vois, j'aimerais bien, t'es vraiment la meilleure personne de mon équipe, mais je veux pas trop faire de différence avec la transparence actuelle, je vais me faire taper sur les doigts.
Est-ce qu'au final, c'est pas ça aussi un des principes de méritocratie, c'est-à-dire que ton top performer, c'est normal qu'il gagne plus que tout le monde, c'est ton top performer.
Ah, mais moi, tu vois, on parle de conviction, on revenait sur la première étape de la transparence salaire, c'est d'asseoir ses convictions. Moi, j'ai la même conviction que toi. Et on met une place forte à la récompense de la performance dans notre politique salariale. Mais j'ai
Ouais, nous
peur
aussi.
que la transparence force des entreprises à être un peu moins courageuses là-dedans et dire ah, méritocratie, ok, mais la peur que il y ait trop de gens mécontents va primer. Et on va faire beaucoup de mesures collectives et en fait on va amener dans du collectif dans lequel va se noyer un peu le côté méritocratique. Tu vois, il y a cette
Alors,
crainte-là que le marché ait plus
c'est
de
pour les plus grandes
transparence sur ça.
entreprises, alors peut-être. C'est vrai, pour les entreprises qui ont voilà, 30 000 salariés, comme tu disais, c'est vrai que là, la discussion est peut-être différente, mais je trouve que le principe méritocratique, si tu l'abordes dès les entretiens, ils savent dans quel environnement ils vont arriver, quoi.
En fait, c'est génial tout ce que tu dis, mais ça montre les convictions que vous avez et comment vous les appliquez dans la politique de rémunération. On revient à ce point essentiel, c'est que toutes les entreprises doivent avoir ça. Il y a assumer leurs convictions et les assumer dans leur politique et d'afficher leur politique. C'est-à-dire de dire, moi, quand je recrute quelqu'un, je lui dis, attention, Bah, chez moi, les salaires sont transparents. Par contre, chez moi, la performance est super importante. Donc, il y en a qui vont avoir bien plus augmenté que les autres. Mais toutes les entreprises n'assument pas forcément. Soit ils l'ont, ils n'ont pas ces principes-là parce qu'ils n'ont pas vraiment défini. Et ils n'ont pas vraiment d'identité au niveau rémunération, au niveau culture. Soit ils les ont définis, mais ils ne les assument pas suffisamment. Donc, ils n'en parlent pas vraiment aux entretiens. Et derrière, ça se fait un peu en catimini.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des toutes petites choses ou des petits outils ou quoi à mettre en place pour déjà favoriser très rapidement la transparence des salaires?
Je pense que en fait, je pense qu'il n'y a pas de vrai quick win, de petites mesures vraiment actionnables. C'est vraiment un travail de fond à faire quand même. Franchement,
Ouais.
c'est vraiment de se dire, OK, je viens, je regarde mes inégalités internes. Mais en vrai, le vrai action au court terme, c'est de réaliser que c'est inévitable maintenant, de réaliser que c'est qu'une question de temps, et d'utiliser ça pour en fait mettre le sujet sur la roadmap, le sujet à traiter dans les prochains mois, les prochaines années, parce que il y a plein de, moi je connais plein de RH qui depuis des années disent, mais en fait, oh là là, c'est un tel bordel en interne, moi j'ai honte de l'inégalité qui est perpétrée, mais à chaque fois que je dis, il faudrait peut-être rattraper les écarts, mes dirigeants disent, ouais, on le fera un jour, mais maintenant pas trop, ont maintenant une raison de vraiment aller favoriser l'équité en interne. On peut utiliser ça comme levier de préoccupation pour avoir les moyens et le sponsor de l'équipe dirigeante pour arriver à tacler ce sujet-là. Mais sinon, c'est un sujet de fond quand même, hein.
Oui,
C'est pas un
certainement.
sujet simple à aborder, hein.
Non, 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 pas du tout. C'est vrai. Et quelles sont pour toi les meilleures pratiques pour mettre en place justement cette transparence salariale?
Bon, je reviens un peu ce que j'avais dit, le premier pas, et c'est intéressant parce qu'on est tombés tous les deux dedans, c'est d'être un peu honnête sur qui on a envie d'être en tant qu'entreprise quand il s'agit des salaires. Est-ce qu'on a
D'assumer,
envie
quoi. Ouais.
voilà, méritocratique. Est-ce qu'on a envie d'avoir de la rémunération variable? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir de la rémunération variable indexée sur la performance? Tous ces grands principes, en fait, c'est vraiment de les définir et de les assumer. Franchement, honnêtement, c'est le point le plus important parce que beaucoup pensent à, ah, mais faut que je mette les fourchettes sur le salaire, sur les offres d'emploi, à quelle largeur vont avoir les fourchettes? Mais en fait, ça découle de ces questions-là. Ça va découler de ces questions-là. Et donc, ce gros sujet, c'est déjà de se poser ces questions-là. Le deuxième, et c'est intéressant parce que moi, historiquement, que ce soit dans mon entreprise ou après, j'ai accompagné les entreprises dans la définition de leur politique salariale, le principe numéro un que j'ai dit à toutes les entreprises, c'était comportez-vous comme si toutes vos décisions de rémunération peuvent fuiter ou peuvent être transparentes un jour. Et en fait, je pense que c'est la meilleure manière d'objectiviser ces décisions et de se forcer à les assumer. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un leak Microsoft, toutes les fourchettes de salaire de Microsoft viennent de fuiter cette semaine-là. Et je dis, bah en fait, imaginez que ça vous arrive à vous demain. À quel point vous serez à l'aise avec ce qui est en train de se faire? Et en fait, c'est la meilleure manière quand il s'agit de rémunération de se dire à quel point la décision que je suis en train de prendre à l'embauche, en revue, etc., je suis capable de l'assumer. Et quand on se pose cette question-là, dès qu'il s'agit de prendre des décisions de salaire, d'un seul coup, on commence à créer une politique salariale qui est bien plus juste et équitable.
Mais à l'inverse, tu disais au début de l'épisode que transparence salariale ne veut pas forcément dire être au courant des salaires de tout le monde. C'est que tu es au courant des fourchettes salariales, tu es au courant voilà, de la parité homme-femme, on va dire, ou non, enfin voilà, d'être au courant de ce genre de choses, mais pas forcément de connaître le salaire, la rémunération de mon voisin, quoi.
Exactement. Et nous, je pense que dans ce cas de figure, c'est le cas pour chez nous, mais je ne le conseille pas à tout le monde. Je ne conseille pas. En fait, moi, je dis que toutes les entreprises, et même encore une fois, avant l'arrivée de cette directive sur la transparence des salaires, je disais, mon point de vue, c'est qu'il n'y a aucune raison logique que les entreprises ne tendent pas vers la transparence des grilles de salaire. Aucune. Par contre, la transparence absolue, moi, je la pratique dans ma boîte actuelle, je la pratiquais en tant que DRH dans ma boîte d'avant. Et j'ai vu, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. C'est un choix très tranché, très clivant, et tout le monde n'est pas à l'aise. Je pense que vous voyez aussi avec. En fait, tout le monde n'est pas à l'aise que les autres connaissent leur salaire. Mais aussi, et moi, c'est un des cas de figure que j'avais, auquel je n'avais pas pensé avant de me plonger dans ce monde de la transparence des salaires. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de connaître le salaire des autres. En fait, moi, je voyais des gens dans l'entreprise d'avant où on avait un fichier Excel avec tous les salaires de tout le monde. Et je voyais, en fait, c'est bête, hein. Mais tu sais, quand tu allais sur le fichier Excel, tu voyais la petite icône, la petite photo des gens. Et en fait, je voyais des gens qui étaient en permanence. Et tu vois, avec une de ces personnes, j'ai eu une discussion honnête un jour. Et en fait, elle a avoué. Elle se rendait malade dès qu'il y avait une arrivée à dire combien elle gagne la personne. Elle regardait le salaire des pairs, le salaire des autres, etc. Et en fait, c'est une information qui est, pour certaines personnes, trop émotionnelle. C'est lié à est-ce que je gagne assez? Est-ce que je gagne? Il s'avère que cette personne-là gagnait moins que sa conjointe et qu'elle vivait très mal. Et tu vois, tous ces biais-là, ce truc, c'est hautement émotionnel par rapport au salaire. Et donc, il y a des gens qui se rendent malades à avoir accès au salaire de tout le monde, et c'est pas fait pour eux. Cette personne-là en faisait partie. Et donc, la transparence absolue, c'est pas fait pour toutes ces entreprises. C'est un choix culturel fort, clivant, que certaines peuvent faire, mais que toutes ne doivent pas faire. Par contre, tendre vers la transparence de la grille, ça, je pense que c'est sain pour tout le monde de le vouloir. Et de toute façon, maintenant, c'est inévitable.
Oui, mais pour allez, en tout cas de ce que je comprends, ça reste pour toi quand même plutôt un critère attirant les candidats que les freinants, quoi.
Ben, en fait, c'est attirant pour une portion de la population
Pour
et
une
c'est ça
portion.
qui est génial. C'est comme
Mais
tous
c'est
les
celle que tu veux
éléments de
attirer
culture
sans
forte.
doute.
Exactement. C'est un élément culturel en fait. La beauté d'avoir une culture d'entreprise assez forte et affirmée, c'est que tu vas attirer 20% de la population, peut-être 10%, et tu vas en repousser le reste, mais c'est mieux que de laisser 100% de la population indifférente. Donc nous, on a des gens qui viennent parce qu'ils voient qu'on a des salaires transparents. Tu vois, un de nos clients historiques, c'est Shine, dont tu as peut-être entendu parler, qui a mis leur calculateur de salaire en ligne. Tu vois, ils le font, c'est les clients de la première heure de figure. Ils construisent ce calculateur avec nous et avec les données figure historiquement. Et eux, ils vont te dire, je leur parle régulièrement à la DRH, la responsable recrutement, qu'ils ont des gens qui détestent leur simulateur. Un des données de leur simulateur, c'est que il y a une prime annuelle pour les gens selon le nombre de personnes à charge, enfants comme parents.
Ok.
Et ça, c'est incroyablement clivant. C'est-à-dire que deux personnes font le même job. On peut être sur le même job, Stéphanie, on est tous les deux responsables marketing, même année d'expérience. Moi, j'ai deux enfants, tu n'en as pas. Que tu aies fait le choix ou pas d'en avoir, je gagnerai, j'aurai un salaire annuel supérieur parce que j'ai des enfants à charge. Super clivant comme mesure. Mais ce qui est intéressant,
Clivant,
c'est qu'il y a
clivant.
plein de gens qui vont détester ça, mais il y a plein de gens qui adorent, et les gens qui adorent, ils postulent chez eux en disant, mais j'adore ce que vous faites. Et tu vois, elle partageait une stat, la responsable recrutement, quand je lui parlais, 80% de leurs comex a baissé leur salaire pour le rejoindre. Combien d'entreprises peuvent dire la même chose?
Une minorité, à mon avis, pas beaucoup. Ce sont des exceptions et pas des règles.
Voilà, et donc comme tu l'as dit, moi je suis en faveur d'avoir des éléments culturellement forts qui va attirer quelques candidats, en repousser d'autres, plutôt que de laisser 100% des gens indifférents. Mais ça, c'est un point de vue un peu personnel.
En tout cas, ce sera un peu le mot de la fin, s'assumer, être transparent, mais aussi en assumant sa culture d'entreprise forte. Virgile, un tout grand merci pour le partage de ton histoire et surtout pour m'avoir appris que j'avais une corde à mon arc en plus dans ma marque employeur.
Clairement.
Merci beaucoup Virgile et à tous
Merci à
mes
toi.
auditeurs. On s'entend d'ici 2 semaines. Bonne journée à tous. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.